tabassé à mort par amour. Paraît que c'est courant de nos jours. Le métier d'épouse n'est pas sûr quand on est la femme d'un vrai dur.
Parce que ce sont des femmes. Parce que ce sont des femmes, elles sont victimes de violences. Pour accompagner ces femmes, des professionnels, des bénévoles se mobilisent chaque jour. Je vous propose d'écouter les témoignages de celles et ceux qui accompagnent ces femmes.
Frappé à mort par un sale con, que je dédie cette chanson.
Séverine Pereira est conseillère en économie sociale et familiale à l'ARSL, l'Association de réinsertion sociale du Limousin. Elle est également référente violence pour le département de la Haute-Vienne. Je vous propose d'écouter son témoignage. Bonjour Séverine.
Bonjour.
Séverine, on est ici à l'ARSL. Ça veut dire quoi ARSL ?
L'Association de réinsertion sociale du Limousin.
Voilà. Et ici, vous avez une place tout à fait particulière, puisque vous êtes référente violence pour le département de la Haute-Vienne. C'est quoi ce rôle de référente violence ?
Alors, l'idée du référent violence, c'est d'animer un réseau de partenaires, de le coordonner et à travers ce réseau travailler des situations que l'on peut rencontrer qui peuvent nous paraître assez problématiques. Donc on se réunit avec les partenaires tous les mois autour de situations un petit peu complexes.
Très bien. Donc vous êtes à la tête du réseau, c'est ça ? On peut imaginer ça, même si vous travaillez tous ensemble ?
Alors oui, c'est une coordination.
C'est une coordination. Alors c'est qui est dans ce réseau ?
Alors, participe à ces comités de suivi et au réseau la gendarmerie, la police, l'association France Victimes 87, le CIDEF, Centre d'information aux droits des femmes et des familles, l'ARSL, donc par le biais du référent violence. Et je crois que j'ai
et
fait
puis c'est tout. C'est déjà pas mal.
Ouais, c'est déjà pas mal.
Ce réseau, quelle est sa mission ? En fait, alors déjà, on parle de violence. On parle de violence uniquement aux femmes ?
Alors non, les violences, elles touchent aussi les hommes.
Hein. D'accord.
Nous, notre travail, c'est axé sur les violences et les violences conjugales qui peuvent également toucher les hommes.
D'accord. Alors aujourd'hui, on est là pour les violences faites aux femmes. Concrètement, en quoi consiste le rôle de cette commission ? C'est-à-dire que chacun a des situations qui lui sont signalés ou qu'il doit traiter, etc. J'imagine qu'il y a plein de portes d'entrée. Hein. Vous allez nous dire quelles sont ces portes d'entrée. Et puis, on étudie ça de façon collective, c'est ça ?
Oui, l'idée, c'est de travailler des situations complexes pour lesquelles l'un ou l'autre des partenaires peut rencontrer des difficultés. Et surtout, la victime, hein, l'idée, c'est de lever des facteurs bloquants. Hein, donc, un travail en partenariat, un travail d'échange, ça nous permet souvent de débloquer des choses. Ça peut arriver que cette situation, cette victime, ait rencontré plusieurs des partenaires qui sont autour de la table, et c'est aussi de l'échange d'informations. Et à travers cet échange d'informations, avoir de nouvelles idées et de nouvelles orientations possibles.
On l'a compris, un travail de collaboration, d'harmonisation peut-être aussi, oui. vous nous le direz. Ça veut dire aussi que sur ce territoire, comme sur tous les autres, d'ailleurs je ne vous ai pas demandé, est-ce qu'il y a une commission comme ça sur tous les départements de France ?
Alors normalement oui, il est organisé dans tous les départements des commissions, d'accord. Alors sous différentes formes.
Mais il y a, une instance qui est là. Ça veut donc dire aussi que sur le territoire, sur chaque territoire, il y a des portes d'entrée au niveau du CIDF, au niveau associatif, il y a des associations, au niveau de la gendarmerie, au niveau de la police, il y a plein de portes d'entrée. Il faut peut-être le dire, il n'y a pas une seule porte d'entrée pour une femme victime de violence.
Oui, alors effectivement, c'est aussi pour ça qu'on se réunit, parce que l'entrée est multiple, et que ce soit par la gendarmerie, mais aussi les assistantes sociales de secteur, parce que ça fait partie, j'ai oublié tout à l'heure, mais le conseil départemental fait également partie des comités de suivi. C'est un partenaire incontournable aussi. Donc oui, la multiplicité des portes d'entrée nous oblige à travailler en réseau.
Alors, il y a un vrai maillage.
Ouais.
Et il y a une vraie identification et un vrai travail en réseau autour des situations les plus complexes. De façon globale, qu'est-ce qui est bloquant ? Puisque justement, vous dites on est là pour étudier ce qui peut bloquer les situations bloquantes. Moi, je vais faire mon candide. J'imagine que je suis une femme, je suis victime de violence. Il y a une porte d'entrée, allez, je sais pas, je vais dire mon assistante sociale de quartier ou la gendarmerie. Puis finalement, il n'y a pas de raison que ce soit bloquant, puisque on en parle tellement que finalement tout est assez fluide.
Alors, différentes raisons pour lesquelles il peut y avoir des facteurs bloquants. Des fois, c'est un dépôt de plainte qui n'a pas été pris pour telle ou telle raison, et donc ce qui n'est pas normal en soi, puisque maintenant il y a une nécessité de prendre une plainte systématiquement pour des faits de violence. Mais ça arrive encore qu'il y ait des plaintes qui ne soient pas prises et on reste sur des mains courantes. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Ça peut être des relations avec d'autres partenaires autres que ceux du réseau et des partenaires qui ne travaillent pas forcément que sur les violences conjugales. Et il peut y avoir des freins. Voilà, je pense à d'autres structures qui font de la médiation, par exemple, où on sait que la médiation, dans le cadre de violences conjugales, c'est quand même assez problématique. Et voilà. Mais quand ils n'ont pas forcément toutes les informations, ça peut être difficile pour la victime. Et puis d'autres points à lever, concernant les enfants aussi, les orientations, quand on voit des enfants qui sont particulièrement éprouvés par les violences et qui rencontrent des difficultés vraiment importantes, c'est vers qui les orienter, comment on peut aussi les prendre en charge eux, et pas uniquement la maman.
Alors cette instance, elle a un rôle donc de concertation, de mise en harmonie un peu peut-être des différentes interventions. Ça marche bien ? On arrive à trouver des solutions ensemble ?
Alors oui, effectivement. Sinon, il n'y aurait pas d'intérêt de les maintenir. Mais effectivement, oui, c'est important que cette instance soit présente et on trouve des solutions. Alors des fois, effectivement, ça prend un peu de temps, mais en principe, on y arrive.
D'accord. Vous êtes la référente départementale. À côté de ça, ou avant de ça, si vous voulez nous dire, ou en simultané, vous travaillez au contact de ces femmes dont on parle tous les jours, puisque vous êtes conseillère en économie sociale et familiale, et vous avez un rôle d'accompagnement. Donc là, on n'est plus vraiment dans la concertation, même si j'imagine que votre travail se situe dans un réseau, on travaille avec beaucoup de partenaires. On va commencer par le début, si vous voulez bien. Déjà, ça fait combien de temps que vous faites ça ?
Ça fait à peu près 22 ans.
22 ans.
Ouais.
Comment on en arrive à un moment donné à se dire tous les matins, je vais me lever pour aller accueillir, accompagner des femmes qui sont victimes de violences ?
Très bonne question. Alors, mon parcours, au départ, je n'avais pas prévu de travailler forcément avec... des femmes victimes de violences conjugales. J'ai commencé ma carrière au sein de l'ancien foyer de la Gartempe, qui était un foyer pour femmes. J'ai commencé comme stagiaire et j'étais en cours de formation. Et c'est au sein de ce foyer que j'ai découvert cette problématique des violences conjugales, pour laquelle je n'avais aucun lien auparavant. Je ne connaissais pas du tout ce schéma-là. Et j'ai rencontré des femmes, effectivement, dans des situations assez dramatiques. Et voilà, ça a fait un tilt. Je me suis dit, oui, là, il y a quelque chose à faire d'important. Et voilà, je viens d'une famille où les violences, forcément, n'ont pas existé. J'ai été élevée par une maman divorcée, donc qui a toujours tout assumé. Donc forcément, de voir ces femmes sous l'emprise d'hommes, il y avait un intérêt pour moi à faire en sorte que les choses un peu évoluent. Donc j'ai pas un passé de militante, mais petit à petit, quand même, malgré tout, je me suis dit que là, il y avait encore de nombreuses femmes qui étaient soumises à l'autorité de l'homme.
Alors justement, qui sont-elles ces femmes? Est-ce qu'il y a un profil? Est-ce qu'il y a un type de femme dont on peut se dire, ben, finalement, c'est normal que ça lui arrive?
Non, je vois bien. Non, il n'y a pas de profil. Il n'y a pas de profil type. On rencontre des femmes de tous les milieux, tous les milieux sociaux. L'argent n'est pas déterminant. Et j'aurais envie de vous dire que plus le niveau social est élevé, plus le tabou est grand et plus il est difficile pour elles de verbaliser. Donc effectivement, on a tendance à voir plus de personnes dans des milieux sociaux moins élevés parce que l'accès à une structure d'hébergement, c'est un petit peu obligatoire pour elles. Dans d'autres milieux plus aisés, il y a d'autres solutions possibles.
Des solutions de repli.
Ouais, malgré tout, le constat est que ça touche tous les milieux, effectivement.
Est-ce que, de ma place, c'est ce que j'imagine, à vous de me dire si je ne me trompe pas, j'ai l'impression que le point commun, ça reste quand même la peur. Est-ce que c'est ça le déclencheur? Est-ce que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on arrive jusqu'à vous? Est-ce que c'est le trop-plein? Est-ce que c'est... oui, effectivement, moi j'ai déjà interviewé quelqu'un qui a été victime de violence, et elle me disait, j'ai supporté très longtemps... jusqu'au jour où j'ai eu la sensation que j'allais mourir et qu'il fallait que je m'en aille. Est-ce que c'est ça?
Alors, c'est quelque chose qui revient souvent, effectivement. La peur de mourir. C'est pas la simple peur, c'est la peur de mourir, clairement. Et puis, il y a un autre facteur, c'est les enfants.
Les enfants.
Voilà. Les enfants et pour d'autres, les animaux. Il y a une limite à pas franchir. C'est toucher aux enfants ou toucher, pour celles qui n'ont pas d'enfants, à leur animal.
Voilà. D'accord.
Et donc là, ça permet le déclic. Et de se dire, ben là, c'est plus possible.
Elles arrivent, vous ne les connaissez pas. Comment elles arrivent d'ailleurs? Elles arrivent par un coup de téléphone, elles arrivent devant la porte, elles arrivent comment?
Ah ben, on peut avoir des femmes qui arrivent devant la porte, mais souvent c'est d'abord un appel. Alors, soit un appel direct parce qu'elles ont fait le 39-19.
D'accord, voilà. Le 39-19, c'est important, oui.
Soit c'est un partenaire, la police, gendarmerie, les services sociaux.
Et donc elles arrivent. Là, c'est quand même un grand pas dans l'inconnu. Ouais. C'est-à-dire qu'en plus de la fuite... Bon. Il y a cet inconnu dans quoi je mets les pieds, j'imagine. Qu'est-ce que vous leur dites en les accueillant? Elles sont toutes différentes. Elles arrivent avec des histoires qui peut-être sont similaires, mais on verra sans doute, ont toutes des particularités. Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un comme ça tout de suite dès qu'elle arrive? Parce que j'imagine que vous ne cherchez pas à savoir si leur histoire elle est vraie ou elle n'est pas. Qu'est-ce qu'on fait? C'est l'accueil, c'est ça le
premier
point?
Alors, c'est l'accueil et la sécurité qu'on peut apporter à cet accueil qui est important. Parce que si elle a besoin de parler, si elle doit être sur le qui-vive en permanence et entendre une porte claquer, par exemple, voilà, tout ça, c'est compliqué. Donc, l'accueil et l'accueil sécuritaire est important. Après, je pense que ce qu'elles ont envie, c'est de parler de ce qu'elles vivent. Donc nous, on est là pour les laisser évoquer leur situation. On écoute beaucoup.
D'accord. Il n'y a pas d'heure. Elles arrivent parce que, je ne sais pas, dans mon inconscient, je me dis, elles partent le soir, ou elles partent la nuit, ou elles partent en journée si jamais il est parti.
Il n'y a pas d'heure.
Il n'y a pas d'heure
et nous fonctionnons avec une permanence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc l'accueil peut se faire à n'importe quel moment.
La première compétence que vous devez avoir, que doivent avoir les accueillants, c'est la capacité d'écoute.
Oui, c'est indéniable.
Ça s'apprend à l'école ça ou ça s'apprend avec le temps?
Je crois que ça s'apprend avec le temps. Personnellement, je ne l'ai pas appris à l'école. Et puis, je pense que soit on l'a, soit on l'a pas. Et on est en capacité d'écouter ou pas.
Vous le disiez, beaucoup partent à cause des enfants. Donc, j'imagine qu'elles partent aussi avec les enfants.
Oui.
Quand vous les accueillez, que deviennent ces enfants? Est-ce qu'elles doivent avoir peur, par exemple, du fait que parce que leur situation ne va pas bien, on risque de leur enlever leurs enfants?
Alors, c'est l'une des premières choses que certaines vont évoquer, hein, puisque souvent, c'est un moyen de pression du conjoint. De dire que si elle part, soit lui va lui prendre les enfants, soit c'est les services sociaux. Donc voilà, il faut faire en sorte qu'elles comprennent que non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, dédramatiser les choses et voilà, leur dire qu'elles ne risquent rien, effectivement. Alors à moins de maltraitance sévère, mais bon, c'est rarement le cas, voilà, il y a peu de risques qu'on leur enlève les enfants, donc il faut faire le voilà, contrecarrer le schéma du conjoint et voilà, plutôt dire que c'est l'inverse, qu'elles ont fait le bon choix et qu'elles ont protégé leurs enfants surtout.
Est-ce que quand vous les accueillez, le dépôt de plainte est un impératif, est quelque chose que vous leur conseillez tout de suite ou pas? Ou est-ce que c'est quelque chose qui doit venir après ou à un moment donné? Mais...
Alors, nous, le dépôt de plainte n'est pas obligatoire. Par contre, on sait le bénéfice du dépôt de plainte derrière, et à la fois pour se reconstruire et aussi pour faire valoir leurs droits. C'est-à-dire qu'à des moments donnés, s'il y a des nécessités d'être protégé réellement, ça passe par le dépôt de plainte, parce qu'aucune mesure ne sera mise en place s'il n'y a pas eu ce dépôt de plainte. Donc oui, ça va venir à un moment donné.
Ça fait partie des informations.
Voilà. Mais certaines font le choix de ne pas du tout déposer plainte. Après, voilà, on continue malgré tout l'accompagnement.
Alors en termes de temporalité, je le disais, elles arrivent avec les enfants. Premier soir, mettons, elles arrivent un soir. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'elles dorment? Où est-ce que comment on les loge avec les enfants? Comment on fait? Parce que c'est une fois sorti, ce qu'il y a à sortir, qui doit, j'imagine, être important, se pose tout de suite des questions matérielles qu'elles se sont déjà posées d'ailleurs.
Oui. Alors effectivement, nous on est là pour lever les freins, tout ce qui est lié
logistique,
au matériel,
tout ça,
logistique. Donc on a une maison d'accueil d'urgence, comme ça qu'on l'appelle, dans lequel on peut loger voilà, les femmes en urgence qui arrivent, que ce soit la nuit ou la journée. Et donc, pas de frein matériel, il y a les lits, il y a tout ce qu'il faut dans le logement
pour
les accueillir, ce qu'il faut pour les enfants. Et voilà, il ne faut pas que ça devienne un problème et que ça leur, voilà, et qu'elles aient envie de repartir parce que
une mise à l'abri possible
tout de suite.
Alors il y a ce premier moment qui, j'imagine, doit être chargé de plein de choses d'ailleurs, effectivement, j'imagine qu'il nécessite des compétences bien particulières en termes d'écoute. Et puis, il y a le lendemain. Et le lendemain, est-ce que c'est finalement pas ce jour-là le plus difficile?
Alors si, le moment de la crise et puis la peur qu'a généré cette crise, effectivement... Il n'y a pas trop de questions qui se posent, mais le lendemain, c'est plus compliqué. Et certaines femmes font le choix de repartir le lendemain.
Il y en a beaucoup.
Beaucoup non, mais... oui, toujours trop.
Toujours trop,
mais oui,
il y en a
qui se plaignent. Ça fait partie
faut le dire, du
phénomène, effectivement. Oui. Mais on le sait, dans cette problématique-là, il faut faire des expériences. Et un premier départ est une expérience. Et elles en tirent quand même quelque chose,
d'accord.
Et puis quand elles le renouvellent, et bien ça se passe différemment.
Après, on est d'accord que celles qui ne repartent pas, et il n'est pas question de les blâmer, hein, c'est leur vie, celles qui ne repartent pas, ce n'est que le premier jour d'une longue histoire.
Oui, c'est le premier jour d'une longue histoire, et puis il y a tout à construire ou reconstruire. Et ça prend du temps, et avec des hauts et des bas, et c'est ce qu'on leur dit, effectivement, il y a des moments où elles vont aller bien, et puis d'autres moments où ça va peut-être craquer un peu, mais voilà. Notre présence est importante à ce moment-là, parce qu'on sait qu'effectivement ça...
En tant que professionnel, est-ce que vous avez la sensation, sur ces temps-là, justement, d'être impuissante, ou de ne pas en avoir assez, de ne pas avoir assez de moyens? Est-ce que vous estimez, par exemple... que le système vous porte assez, vous accompagne assez, vous, parce que c'est bien joli d'accompagner des personnes, mais il faut pouvoir s'appuyer sur un système aussi qui nous légitime dans nos actions. Est-ce que vous avez la sensation qu'on peut en faire encore plus ou pas?
On peut toujours en faire plus. on peut toujours en faire plus, mais on a quand même eu de réelles évolutions quand même ces 10 dernières années.
Oui.
Et voilà, on ne peut pas le nier que de nombreux dispositifs ont été mis en place, même en termes d'hébergement, voilà, y a plus de place. Après, le temps qu'on peut dédier à ces femmes est important, et C'est vrai que le flux augmente et on a peut-être, nous, de moins en moins de temps.
Le flux augmente.
Oui, le flux augmente. Le ouais. Et surtout depuis le Covid, en fait.
D'accord.
Voilà. Alors, c'est pas exponentiel, oui. Mais voilà, ça commence à se libérer, oui.
On a l'impression, de l'extérieur, que ben, quand vous recevez quelqu'un, ok, vous la mettez à l'abri, vous commencez à l'accompagner, vous êtes dans une proximité immédiate, hein, pour ce qui vous concerne. Il y a des choses qui peuvent aller très vite, et puis il y a des choses qu'on ne maîtrise pas vraiment, qui sont notamment les décisions de justice, qui sont des choses comme ça. Quel rapport vous avez avec la justice, et est-ce qu'il existe des procédures, par exemple, un peu plus rapides pour ces situations, ou alors est-ce qu'on doit vraiment encore progresser là-dessus?
Alors, ces trois dernières années, on a vu un gros changement, oui. Il existe des mesures, notamment l'ordonnance de protection, qui existe déjà depuis pas mal d'années, mais qui, avec le Grenelle contre les violences, a été réformée, et maintenant, sous 6 jours maximum, un juge aux affaires familiales peut délivrer une ordonnance de protection. Donc là où il fallait un mois et demi, on est passé à 6 jours.
Oui, c'est important.
Et ça, c'est pas négligeable, c'est très important. Donc ce dispositif-là est quelque chose d'important pour les victimes. Et puis on a vu les téléphones grave danger également se développer. C'est aussi
le téléphone grave danger, c'est oui. Expliquez-nous.
Alors, c'est un téléphone qui est attribué à une victime par le procureur pour lui permettre de continuer à vivre son quotidien tout en étant sécurisée avec un téléphone qu'elle peut activer et où elle est géolocalisée. Donc, il y a une plateforme qui reçoit les appels et qui se met en lien avec les autorités judiciaires, notamment la police ou la gendarmerie, voilà, en cas d'alerte. En termes de protection, c'est quelque chose d'important, mais ça permet aussi de rassurer les victimes.
Bien sûr. Voilà. On va passer, je vous avais demandé de réfléchir, d'essayer de réfléchir à une histoire qui vous avait particulièrement marqué, de façon à ce qu'on soit un peu plus encore dans votre réalité. Mais avant ça, je voudrais qu'on aille peut-être sur des a priori peut-être que l'on peut avoir et qui je trouve qui ne sont pas toujours très bons en direction de ces personnes-là. Est-ce que c'est une fatalité d'être une femme battue? Est-ce que, alors vous nous avez un peu répondu au début, ou une femme victime de violence, parce qu'il n'y a pas que la violence physique, mais est-ce que ces femmes-là ont déjà eu forcément dans leur jeunesse, ont été spectatrices de violence ou ont été maltraitées en tant qu'enfant, et finalement, en quelque part, il y a une certaine normalité à ce que ça fasse partie de leur quotidien? Est-ce que vous constatez ça?
Alors, j'aurais tendance à dire, mais je vous l'ai dit au début, ça touche vraiment tout le monde. Effectivement, il y a des situations fragilisantes, et quand on a été victime dans l'enfance de faits de violence, d'abus, oui, on a de grandes chances
de répéter
les schémas à l'âge adulte, d'où l'importance de soigner très tôt les traumatismes des enfants. Pour éviter des schémas de reproduction. Mais toutes les femmes que l'on rencontre n'ont pas forcément ce parcours-là. Donc voilà. Même si c'est vrai.
C'est important de le dire. Ouais. Et puis, dans le même ordre d'idée, est-ce qu'une femme, une femme battue ou une femme victime de violence qui vient vers vous, qui s'en sort, qui reconstruit, est-ce qu'elle va forcément retomber sur la même histoire?
Alors. On espère que non, et on fait tout pour que ça ne se passe pas comme ça.
Dans la réalité,
c'est possible, ça arrive. On voit des femmes qui ont eu plusieurs conjoints violents, voilà. Et c'est dans ces schémas-là qu'on va retrouver des femmes qui ont un parcours dans l'enfance. Donc oui, il y a un gros travail à faire pour ça. Mais...
Quand vous parlez du travail, alors on matérialise hein, tout de suite, je veux dire vous, votre travail, on matérialise le travail de la gendarmerie, de la police, de la justice, on arrive à peu près à imaginer ce que ça peut induire en termes de logement. Il y a quand même une dimension psychologique.
Oui.
Vous diriez que ça va de pair, que c'est nécessaire qu'il y ait un accompagnement, ou en tout cas de proposer, et au mieux de suivi.
Alors, c'est important. Toutes n'en ont pas besoin.
D'accord.
Mais Oui, c'est important dans la suite, et pour celles qui ont justement des traumatismes répétés, voilà, il y a des orientations vers l'unité de victimologie du CHSS Quirol, par exemple, qui traite le traumatisme, et c'est important de le traiter pour éviter la reproduction des faits.
Très bien. Bon, on va finir cette première partie juste avec le rappel du numéro, hein, pour que les gens puissent appeler si jamais ils sont victimes de violence. C'est quoi le numéro?
Alors, c'est le 05 55 79 89 03. Donc, c'est un numéro accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors, effectivement, ce n'est pas un numéro facile à retenir. J'aurais tendance à dire que le 3919 est également un numéro important et ils vont pouvoir orienter les victimes vers nous, quoi qu'il arrive.
Très bien. Donc, sur cette deuxième partie d'émission, je dirais, je vous avais demandé, on n'en a pas discuté encore, vous ne me l'avez pas raconté, je vous avais demandé de réfléchir à une situation qui vous avait particulièrement marqué et de me dire pourquoi. Donc, posez-nous déjà le cadre. C'est quoi cette histoire? Ça commence où et comment?
Alors, c'est une femme que j'ai rencontrée en 2012, à peu près. Donc, ça remonte dans les faits. Mais c'est une situation marquante pour moi à plusieurs niveaux, de par la dimension relationnelle que j'ai pu créer avec cette femme, sa volonté, son courage, mais également, malheureusement, ça m'a aussi conduit à témoigner sur un procès d'assises, donc ce qui n'est pas quelque chose de courant. Et voilà, c'est aussi
c'était une femme battue ?
C'était une femme, alors oui, victime de violences physiques et psychologiques.
D'accord.
J'aime pas le mot femme battue.
D'accord, dites-moi. Pourquoi ?
Parce que, tout simplement, les violences conjugales, elles peuvent être de plusieurs ordres, et que ce soit physique ou psychologique, voire les deux, voire même des violences sexuelles. Et on a tendance à dire les femmes battues, mais elles ne sont pas toutes battues.
Très bien, c'est dit.
C'est dit.
Donc elle est arrivée ici victime de violences conjugales.
Oui.
Vous l'avez accompagnée?
Alors oui, c'est une femme, une maman de trois enfants. À l'époque, elle avait trois enfants, dont la dernière avait trois ans. Donc voilà, les plus grands étaient adolescents. C'est pas une dame qu'on a pris en charge en termes d'hébergement. C'est le commissariat qui m'avait orienté cette dame parce que ils étaient très inquiets parce que la situation, parce que les menaces du conjoint étaient réelles, et voilà. Et cette dame ne souhaitait pas venir dans un centre d'hébergement et ne souhaitait pas faire subir à ses enfants la vie dans un foyer.
D'accord. Donc voilà. Ça veut dire qu'elle avait une autre possibilité en tête?
Non, elle avait décidé que de dire que c'était pas à elle de partir du domicile, c'était
d'accord.
à monsieur.
D'accord.
Voilà, et qu'il fallait que la justice et
le fasse partir.
D'accord. Donc elle était très très déterminée par rapport à ça. Malgré tout, elle était terrorisée. C'est une dame qui a vécu des violences graves très longtemps, qui a accepté ces violences pendant plusieurs années. Mais qui, le jour où elle a vu sa fille aînée, que le mari reportait un peu ce qu'il faisait à sa femme vers
sa fille.
Ouais. Voilà. Ça a été le déclencheur. Ça a été le déclencheur, et là, pour elle, c'était plus possible, il fallait faire quelque chose.
D'accord. Donc, en fait, quand elle est sortie, je dirais, de chez elle, c'était non pas pour dire hébergez-moi, prenez-moi, c'était pour dire sortez-le,
sortez-le, faites en sorte.
Et là, vous avez dit quoi? Vous dites quoi dans ces cas-là? Parce que
on dit la réalité. Alors la réalité, c'est qu'à cette époque-là, nous, on n'avait pas encore tous ces dispositifs de mise sous protection, donc c'était un peu plus compliqué que ça. Malgré tout, il y avait des faits importants, et voilà, il y avait un dépôt de plainte.
Oui.
Et puis ça a pris du temps, ça a mené à finalement une incarcération de monsieur.
De monsieur, d'accord. Voilà. Et pendant ce temps-là, elle faisait quoi, la dame, elle?
Elle est restée au domicile. Alors ça a pris un peu de temps, j'ai plus les détails en tête, mais voilà, ça a pris un peu de temps.
Et vous étiez toujours en contact avec elle?
Oui, j'étais en contact avec elle, et il m'arrivait même d'aller à son domicile la rencontrer. Monsieur a fini par être incarcéré, mais ça n'a pas réglé le problème. Sorti l'incarcération a une durée limitée, heureusement. Dès qu'il est sorti d'incarcération, il a, malgré ses interdictions d'entrer en contact, il a quand même continué à rôder pas mal de temps autour du logement. Et on a été de nombreux jours et de nombreux mois dans faire remonter les faits, le fait que monsieur continuait à se cacher dans la cage d'escalier. Et quand ça, ça a été difficile.
On a fait remonter. Vous faites remonter à qui ?
On fait remonter à la personne en charge de monsieur, c'est-à-dire son conseiller SPIP.
D'accord.
On fait remonter à la police.
On dit à la justice, grosso modo, attention.
Attention.
C'est pas ce qui a été prévu n'est pas respecté. Aidez-nous à faire respecter ça parce que madame est en danger.
Oui. Et effectivement, cette femme, elle pouvait avoir des moments où elle était terrorisée, elle était persuadée, mais de toute façon, qu'il irait jusqu'au bout, s'il réapparaissait, qu'il irait jusqu'au bout. Mais lâchait pas l'affaire par rapport à ses enfants, ne voulait pas leur faire vivre un foyer. Donc, elle a tenu le coup jusqu'à un drame, puisque monsieur, un jour, est rentré... au domicile, il a réussi à rentrer au domicile armé d'un fusil. Et voilà, le drame s'est passé, mais c'est monsieur qui a été tué dans le drame.
D'accord.
Monsieur a été tué dans ce drame-là. Alors, je ne suis pas là pour juger les faits, mais du coup, cette femme s'est retrouvée en qualité de
auteur.
Et auteur d'assassinat, pour le coup, c'est pas juste auteur de violence. Donc voilà, les faits se sont passés, les enfants étaient présents également au domicile, donc c'est quelque chose d'assez dramatique. Et donc, l'enquête a pris le relais, cette dame n'a pas été incarcérée à la suite des faits. Il y a une instruction judiciaire qui a duré, qui a pris pas mal d'années. Et puis arrive le temps du procès. Donc, procès, on est presque 4 ans après les faits, donc c'est très très long. Entre-temps, j'ai continué à rencontrer cette dame. On a travaillé sur du relogement, puisque effectivement, le logement n'était plus habitable, il était saisi par les autorités judiciaires. Donc, on a travaillé le relogement. Elle s'est installée dans un nouveau logement avec ses enfants, et puis vient le temps du procès, et voilà. Procès à laquelle on me demande de témoigner en tant que personne accompagnant cette dame. Et puis le verdict où elle est reconnue coupable d'assassinat, mais avec beaucoup de circonstances atténuantes, effectivement, parce que son passé de violence
a joué en sa faveur.
Donc elle a été condamnée malgré tout à de l'incarcération sur une petite durée et un moment assez difficile, c'est-à-dire que là elle était arrivée libre au procès, elle repart
à la prison.
Donc moment un peu difficile, même si elle assumait complètement les choses. Elle me le disait, elle me disait, j'ai quand même tué le père de mes enfants. Et ça, je me le pardonnerai jamais. Si c'était le pire des monstres, c'est quand même le père de mes enfants. Donc voilà. Donc elle a fait son temps très rapide en prison et
elle a reconstruit sa vie.
Et elle a reconstruit sa vie avec ses enfants.
En une phrase, Séverine, qu'est-ce que ça vous inspire, cette histoire ? En une phrase, qu'est-ce que vous en retenez ? Quelle saveur ? Est-ce que c'est un échec du système ? Est-ce que c'est la destinée ? C'est quoi ? Qu'est-ce que vous, en tant que personne ou en tant que professionnel, vous retirez comme ça instinctivement de cette histoire ? Qu'est-ce que ça vous
Moi, à cette époque-là, c'était un échec du système, clairement. De victime, elle est passée à hauteur et je pense qu'elle n'avait pas eu le choix. Après, c'est mon avis personnel.
Ça, c'était à cette époque.
C'était à cette époque.
Et aujourd'hui ?
Je pense qu'aujourd'hui, il y aurait des choses qui auraient permis d'éviter le drame. Clairement, elle aurait eu droit à une mesure de protection, peut-être un téléphone, puisque monsieur avait été incarcéré, donc d'office reconnu coupable de fait. Et voilà, en tant que récidiviste, il aurait été surveillé de près. Voilà, et à l'époque, ce n'était pas le cas.
Merci Séverine.
Ben, merci à vous.
Oui, c'est à toutes les femmes battues qui jusqu'à présent se sont tues, frappées à mort par un sale con, que je dédie cette chanson.
Je tiens à adresser un immense remerciement à toutes les femmes qui ont eu le courage de témoigner dans ces podcasts. Ce podcast a été réalisé avec le soutien financier de Baby Chou Service Limoges et Harmonie Mutuelle. Il a été réalisé en partenariat et en collaboration avec la délégation départementale Femmes-Hommes de la préfecture de la Haute-Vienne, l'association France Victimes, l'association de réinsertion sociale du Limousin, la maison de protection des familles de la Haute-Vienne et l'association de prévention du psychotrauma chez l'enfant en Limousin. Et un grand merci à Yann Brisson et RTF Limoges pour le montage de l'ensemble de ces podcasts.